Le commentaire d'Isabelle Fontaine.
Et ça se fait en direct de la France ce matin. Isabelle Fontaine, salut!
Bonjour, Steve.
On est bien content de t'avoir.
Bon matin, c'est le midi pour moi.
Ah oui, on est déjà le midi, oui, effectivement, avec le décalage horaire. Ce matin, on voulait parler des gilets jaunes avec toi parce que, écoute, tu ne peux pas être mieux situé. On disait que la grogne ne semblait pas avoir ralenti beaucoup dans les grands centres, dont Paris, entre autres.
Dont Paris, écoute, c'est à la une de tous les journaux. C'est définitivement la plus importante crise politique du quinquennat d'Emmanuel Macron. Autant hein, la revendication de ce mouvement des Gilets jaunes est simple, autant la gestion du mouvement est complexe pour le gouvernement. Là, tellement que hier, le président a finalement désavoué son premier ministre sur la réaction à avoir. C'est une revendication simple. Hein. En fin de compte, c'est né ça d'une opposition à une hausse de taxes sur l'essence qui est prévue en 2019, notamment pour lutter contre les changements climatiques. Et c'est une revendication d'un mouvement qui n'est pas structuré. Donc, c'est pas, y a pas de gens qui lead ce mouvement-là nécessairement.
C'est pas un président donc, syndical ou un représentant de tel mouvement-là. Mm-hmm.
Donc, le gouvernement n'a pas de vis-à-vis avec qui entamer des discussions pour essayer de répondre aux revendications et faire en sorte que le mouvement s'estompe, ni de leader à qui il peut demander hein, de calmer la tension ou d'envoyer un message comme quoi les questions étaient réglées. Donc, c'est une discussion difficile à y avoir pour le gouvernement. Évidemment, c'est un mouvement spontané, mais c'est aussi un mouvement qui est appuyé par presque 80 % des Français parce que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont directement touchés par cette simple hausse des taxes sur le carburant. Puis je lisais quelque chose d'intéressant, qu'un employé moyen qui reste en région et qui a besoin d'une voiture pour aller travailler, avec cette hausse-là, va payer davantage en taxes sur l'essence qu'en impôts sur son revenu.
Aïe.
Donc, tu sais, ça touche largement des gens qui nécessairement sont pas des gens qui se mobilisent naturellement dans d'autres groupements. Donc ça, c'est la première complexité. La deuxième complexité, c'est toute la question de la violence. Hein. Là, on a vu les manifestations ont été infiltrées par des groupes de casseurs, des groupes d'extrême-gauche ou d'extrême-droite.
Et là, c'est blessure par-dessus blessure.
À la violence. Mm-hmm.
Ah oui.
Exactement. On laisse croire qu'il pourrait même y avoir des morts en fin de semaine prochaine si on n'arrive pas à contenir tout ça. Donc, il faut que le gouvernement réagisse fortement pour calmer la grogne et calmer les appels à la mobilisation qui sont très, très forts.
Et là, même si on a dit qu'on faisait une pause sur l'essence, ça ne semble pas avoir diminué la grogne. Donc, est-ce que cette grogne-là est en train de se déplacer?
Bien, c'est ça. En fait, là, on a dit hier, le premier ministre, tout au long de la journée, travaillait sur cette fameuse pause. Sur la hausse et finalement à la fin de la journée là, le président a laissé entendre que ce serait carrément une annulation là, qu'on abandonnerait l'idée d'hausser la taxe sur le carburant. On a vu, là, vous l'avez dit aussi plus tôt dans l'émission, les syndicats sortir pour appeler au calme, essayer qu'il n'y ait pas ou que les manifestations soient de moins grande envergure en fin de semaine. Mais c'est le deuxième risque pour Macron, c'est l'effet d'entraînement. Mm-hmm. C'est à ce stade-ci, la seule revendication, c'est celle de la taxe sur le carburant. Si le mouvement s'amplifie ou continue, et là, il pourrait se trouver d'autres revendications.
Ça peut glisser ailleurs. Ce
n'est pas nécessairement cohérent non plus, mm-hmm. parce que je vous le rappelle, il n'y a toujours pas de leader dans ce mouvement-là et qui ne seront pas nécessairement liés. Mais là, si on embarque là-dedans, cette semaine, on entend parler d'une réforme de l'impôt sur la fortune qui a été faite par le président et sur laquelle on voudrait qu'il recule. Ça pourrait être d'autres revendications. Ça pourrait être repris par des mouvements qui sont moins importants ou qui ont un moins grand appui, mais qui vont utiliser ce mouvement-là comme carburant pour ne pas faire de mauvais jeu de mots
pour
leurs propres revendications. Puis là, on peut se retrouver dans un effet domino où chaque fois que le président va donner un peu de lest pour essayer de contenir la situation, bien, il y aura une nouvelle revendication sortie de nulle part qui va arriver sur le terrain. Donc, c'est très, très compliqué pour lui. Là.
Isabelle Fontaine, est-ce qu'en ce moment, c'est agréable de visiter Paris? As-tu senti ta sécurité menacée d'une façon ou d'une autre?
Non. Ben, en fait, là, on est la semaine. Les gens vivent leur vie, font leurs activités quotidiennes de façon très normale. C'est très calme. Mais moi, et que ça fait... je suis pas venue depuis 10 ans. Ce que je remarque, par contre, c'est que ouais, peut-être l'ambiance est un peu plus tendue à l'aéroport, l'armée est présente, tout ça, mais c'est pas nécessairement dû aux événements
récents,
aux événements précis maintenant, mais c'est aussi, tu sais, il y a eu les attentats l'ensemble dans les dernières années, tout ça. Fait qu'on sent que la sécurité est une préoccupation un peu plus grande que quand je vivais ici il y a 10 ans, mais quand même, ça demeure une ville superbe.
Agréable. Tu as vu cet article ce matin, c'est dans la Tribune, on en parlait hier d'ailleurs avec des conseillers hors d'onde. La période de questions écourtée à Sherbrooke, on aimerait diminuer de peut-être 1 minute, peut-être 2 minutes, la période de questions allouée aux citoyens qui pourraient se déplacer au conseil municipal.
Ben oui, on passe de Paris à Sherbrooke. J'ai vu ça, évidemment. Je suis quand même ce qui se passe. Moi, je pense que c'est une question qu'il faut voir d'une façon plus large. Hein. On parle de la période de questions. Maintenant, on a parlé il y a quelques semaines de l'accès aux ateliers de travail, au comité plénier, aussi la façon dont on étudie le budget municipal. Pour moi, c'est une question large de l'accès aux travaux du conseil municipal puis de la transparence dans notre institution municipale. Puis, je pense que il y a plein de petits mécanismes qu'on peut mettre en place pour augmenter la transparence et l'impression pour les citoyens d'avoir accès puis d'avoir réponse à leurs questions. Puis là, en faisant ça, dans le contexte actuel, l'administration renforce ce sentiment d'opacité puis ce sentiment de manque de transparence. T'sais. Je pense que sur la question de la période de questions, il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour améliorer les choses. Peut-être qu'on devrait, oui, être un peu moins élastique sur le temps de questions et le temps de réponse, donc faire respecter les règles de façon un peu plus précise.
En fait, peut-être respecter les règles aussi. Tout court. Respecter les règles tout court parce que, tu vois, on prévoit 30 minutes pour la période de questions aux citoyens. Ça dure des fois jusqu'à 2 heures. On est élastique longtemps.
Exactement. Sauf que, tu sais, puis il y a des façons simples. Là, les gens s'inscrivent, il y a un registre. En principe, sur le registre, ils vont inscrire le sujet sur lequel ils veulent poser une question. Mm-hmm. Il y a peut-être moyen de faire en sorte aussi que ce ne soit pas toujours la personne qui préside la rencontre qui répond aux questions. Peut-être qu'on pourrait envoyer certaines questions aux conseillers municipaux quand ça concerne leur dossier. Peut-être aussi qu'on pourrait faire en sorte, tu sais, je voyais que les questions sont colligées sur le site de la ville de Sherbrooke, mais pas les réponses. Ce serait bien, c'est écrit simplement que les questions sont répondues pendant la séance. Peut-être que ce serait bien de colliger les réponses par écrit aussi. Ça permettrait aux citoyens d'aller voir ce qui s'est fait avant. Ce serait peut-être bien aussi de donner la possibilité aux citoyens de poser des questions par écrit et d'obtenir des réponses écrites à l'extérieur de la séance du conseil. Ça peut être un autre moyen. Après ça, sur les ateliers de travail puis les comités pléniers, tu sais, ça se passait. La règle sous l'administration de Sévigny, c'était que ça se passait toujours en public, sauf quand les dossiers requéraient de la confidentialité, soit parce qu'on traitait d'informations nominales qui concernent des individus ou parce que c'est des projets privés avec des éléments sensibles pour la concurrence. Mm-hmm. On y allait au huis clos. Là, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. C'est toujours en huis clos, sauf exception. Moi, je pense qu'on devrait revenir à la mesure Sévigny puis dire le huis clos, ça devrait être l'exception et pas la norme. Sur le budget municipal, c'est un peu la même chose. Toute l'étude du budget municipal s'est fait à huis clos. On pourrait pas envisager la possibilité d'avoir une espèce de commission des finances qui ferait une partie de l'étude du budget en public, puis peut-être qu'il recevrait, dans ce cadre-là, des experts ou des groupes de citoyens qui pourraient s'exprimer sur le budget. Mm-hmm. Ça, je pense que c'est toutes des mesures qui nous sortiraient un peu de ce débat très... très procédural sur la simple période de questions, mais qui augmenterait le sentiment des citoyens sur la transparence au conseil municipal, puis cette impression d'avoir accès aux travaux et peut-être d'avoir une influence ou une possibilité d'avoir des réponses à nos questions, puis de comprendre comment ça se passe et sur quelle base sont prises les décisions.
Isabelle Fontaine, merci beaucoup. Bon passage à Paris. Au plaisir de se reparler demain.
Merci, à demain.
Merci, demain.